Avant de commencer justement ce débat et donner le micro à Nathalie Arthaud, nous avons le plaisir de vous accueillir à Metz. Je voudrais vous présenter rapidement la tribune. Alors il y a Christiane Nilsgaire, aide-soignante, qui est tête de liste à Nancy. Il y a à sa droite Dimo Enfer, qui est technicien EDF centrale de Quetnom. Tête de liste à Chambier. Moi-même, Marion Rinaldi, qui suis tête de liste à Metz, je travaille à la SOMAB à Matilly. Et il y a évidemment M. Arthaud. Et donc, je vous passe tout de suite la parole. Voilà.
Travailleuses et travailleurs, camarades et amis, à l'approche des élections municipales, et alors que François Hollande est au plus bas dans les sondages, le gouvernement assure qu'il est au travail et que tôt ou tard, celui-ci portera ses fruits. Le gouvernement dit travailler à deux priorités. La première étant la lutte contre le chômage. La seconde, la baisse des dépenses publiques. Mais il n'y a rien, plus rien à attendre de ce gouvernement, si ce n'est des coûts pour les travailleurs. Prenons la lutte contre le chômage. Le gouvernement a voulu nous lanterner pendant 18 mois avec l'inversion de la courbe du chômage. Il veut maintenant nous lanterner avec cette histoire de pacte de responsabilité. Quelle est la nouveauté du pacte de responsabilité? Cela fait des décennies que tous les gouvernements baissent les cotisations patronales au prétexte de créer des emplois, avec le résultat que l'on connaît aujourd'hui. Cette fois, il s'agit donc de la suppression des cotisations familiales, l'équivalent de 30 à 35 milliards. Dans un premier temps, le patronat, sans doute emporté par l'enthousiasme et pour faire monter les enchères, avait joué le jeu en prétendant pouvoir créer 1 million d'emplois. 2 millions avaient même surenchéri Montebourg, expliquant que les contreparties du cadeau en termes d'emplois devaient être à la hauteur. Aujourd'hui, le patronat ne fait même plus semblant. Alors qu'il accompagnait Hollande aux États-Unis, le président du MEDEF, Pierre Gattaz, a déclaré qu'il était hors de question qu'il y ait la moindre contrepartie au pacte de responsabilité. Eh bien, cela a le mérite d'être clair. Le patronat veut empocher les 30 milliards, un point c'est tout. Hollande et son gouvernement savent à quoi s'en tenir depuis le début. Mais tout leur problème consiste à faire passer la pilule auprès des travailleurs. Leur problème est de jouer le plus longtemps possible la comédie des contreparties et du donnant-donnant pour lanterner justement les travailleurs. En déclarant crûment que le patronat n'accepterait aucune contrainte, Gattaz a failli tout faire capoter. Depuis, il a mis un peu d'eau dans son vin en évoquant de possibles objectifs chiffrés. Gageons que cela suffira à certains dirigeants syndicaux pour jouer leur rôle dans cette comédie qui ne fait que commencer. Car c'est un éternel recommencement de la même mascarade. Cela fait des décennies que cela dure. Et plus il y a d'exonération de cotisations, et plus le chômage monte. La bataille pour l'emploi est le grand alibi pour imposer des reculs inédits aux travailleurs, pour permettre à la bourgeoisie de se servir directement dans les caisses publiques pour augmenter ses profits. Et pendant qu'ils nous joueront cette comédie du pacte de responsabilité, eh bien les lettres de licenciement tomberont pour les travailleurs de Boudieu, pour ceux du transporteur Maurice Ducrot, pour les salariés de la Redoute. Alors même que Boudieu fait des bénéfices, alors même que le groupe Pinot, qui vient de vendre la Redoute pour sous-traiter les licenciements, prospère. La réalité est que le gouvernement est complice des licencieurs et qu'il leur sert la soupe. Loin de combattre le chômage, le gouvernement le laisse exploser, au point que plus de 5 millions de femmes et d'hommes sont aujourd'hui privés d'emploi, livrés au petit boulot et à la débrouille individuelle. Eh bien, il faut que les travailleurs affirment qu'ils ne sont pas dupes et qu'ils rejettent cette politique pro-patronale. Non, les licenciements et le chômage de masse ne sont pas une fatalité, parce que ce n'est pas l'argent qui manque. S'il y a de l'argent pour augmenter les grands actionnaires et les forces fortune des plus riches, c'est qu'il y en a aussi pour garantir l'emploi et pour payer des salaires. La seule chose qui manque, c'est que les travailleurs se battent pour inverser le rapport de force. La seconde priorité du gouvernement est la baisse des dépenses publiques. Le gouvernement a promis de faire 50 milliards d'économies sur les dépenses publiques d'ici 2017. Pour trouver ces dizaines de milliards, le gouvernement aura l'embarras du choix. Les propositions de coupes drastiques fusent de tous les côtés. Vincent Peillon, le ministre de l'Éducation nationale, a lancé l'idée du gel de l'avancement des fonctionnaires. Cela ferait rentrer 1 milliard. Marisol Touraine évoque le développement de la chirurgie ambulatoire, façon d'annoncer la fermeture de milliers de lits d'hôpitaux. C'est encore 500 millions. La Cour des comptes, présidée par le socialiste Didier Migaud, a proposé, entre autres, de cesser d'indexer sur l'inflation les prestations sociales, comme les allocations logement, chômage ou famille, voire de décaler leur versement de quelques mois. Et côté patronat, on n'est pas non plus en manque d'idées. La première étant tout bonnement de revenir sur les allocations chômage des intermittents du spectacle et de diminuer les droits de tous les autres. Quant à la droite, elle ne pouvait pas ne pas apporter sa contribution à cette foire au mauvais coup. L'UMP a donc concocté, par la voix de Mariton, un plan de 130 milliards d'économies sur 5 ans. Pour garder sa réputation, l'UMP ne pouvait quand même pas se laisser doubler sur sa droite par le Parti Socialiste. Alors, entouré de tous ces messieurs qui rivalisent d'imagination pour voler les classes populaires, on se demande bien à quoi servira le Conseil stratégique de la dépense publique. Voilà au moins une dépense qu'on aurait pu économiser. Bien sûr, le gouvernement se gardera bien d'annoncer avant les élections municipales tous ces mauvais coups. Mais ce qui est certain, c'est que ce seront les classes populaires qui paieront. Parce que le gouvernement ne touchera pas aux dépenses publiques faites en faveur du patronat. Il ne touchera pas aux 50 milliards que l'État verse annuellement aux banquiers en intérêt de la dette. Il ne touchera pas aux milliards versés à Dassault au titre de l'achat de Rafale et autres gadgets militaires. L'État continuera de servir de vache à lait aux grands groupes capitalistes. En revanche, il touchera à l'argent des communes, des départements, des régions. Il demandera à tous les ministères de serrer la vis. Il imposera des restrictions aux hôpitaux, à l'éducation nationale. Et cela sonnera la fin de certaines aides et subventions aux associations. Et tout ce que les services publics n'assureront plus, eh bien il faudra le payer en passant par des entreprises privées. Alors non, pour les travailleurs, il ne s'agira pas d'économies, mais de sacrifices supplémentaires. Alors qu'à la Bourse de Paris, le CAC 40 a augmenté de 17% en 2013 et que des centaines de milliards affluent à nouveau sur les marchés spéculatifs, le gouvernement s'attaque aux services publics et à la protection sociale. Alors oui, Hollande est dans le camp du patronat et cela ne date pas d'hier. Il faut être naïf ou menteur professionnel pour le découvrir aujourd'hui. Les travailleurs de Peugeot, Holné, et il y en a certains ici dans la salle, travailleurs de Le Jadis, de Virgin, tous ceux licenciés l'année dernière l'ont compris depuis longtemps. À qui doit-on la suppression de jours de RTT, la diminution, si ce n'est la disparition de primes, la généralisation de la flexibilité? Au patronat, bien sûr, mais aussi au gouvernement qui a inscrit le chantage à la compétitivité dans une loi. Et c'est sans parler de l'augmentation des annuités pour toucher une retraite pleine. C'est sans parler des augmentations d'impôts. C'est sans parler de l'augmentation de la TVA destinée à payer le crédit d'impôt compétitivité au patronat. Alors, les travailleurs n'ont pas besoin d'être experts politiques, ni de savoir si Hollande est socialiste. Et avec l'annonce du pacte de responsabilité, eh bien Hollande ne fait qu'en rajouter une couche. Ce gouvernement est un ennemi des travailleurs et il faut le combattre avec la même détermination que l'on mettrait à combattre un gouvernement de droite. Oui, le gouvernement prétendument socialiste est passé corps et âme dans le camp de la bourgeoisie. Et cela ne date pas d'hier. Ceux qui, pendant ces 20 derniers mois, ont fait mine de ne pas voir et de ne pas comprendre, ont trompé les travailleurs. Et ils ne méritent pas leur confiance. Ceux qui, comme les dirigeants du Parti communiste, ou comme Jean-Luc Mélenchon, avaient appelé à voter Hollande, ont fait croire qu'il y avait quelque chose à attendre de lui. Et encore aujourd'hui, il nous explique qu'il n'y avait pas le choix, parce qu'il fallait rejeter la politique de Sarkozy. Mais qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, si ce n'est la politique de Sarkozy? Non, il n'y avait rien à attendre de Hollande. Depuis toujours, il est dévoué à la bourgeoisie et au système capitaliste, comme l'était Jospin, comme l'était Mitterrand. Hollande gouverne pour servir les intérêts des capitalistes. Et toute sa carrière politique en témoigne, il a été formé, sélectionné pour cela. Tous ceux qui ont fait croire qu'ils pourraient faire une autre politique que celle demandée par le patronat ont menti aux travailleurs. Tous ceux qui prétendent, comme Mélenchon aujourd'hui, pouvoir gouverner autrement, en protégeant les intérêts des travailleurs, mais sans avoir à remettre en cause la domination de la bourgeoisie sur l'économie, sans avoir à remettre en cause la propriété privée des entreprises et les lois du marché, sont des illusionnistes. Et ce n'est pas avec des illusions que les travailleurs pourront se défendre. C'est au contraire, en étant conscient qu'au-delà du petit personnel politique, il y a la bourgeoisie, les capitalistes, les licencieurs qui tirent les ficelles et que c'est à ce pouvoir-là qu'il faut s'attaquer. À entendre le gouvernement et le patronat, nous sommes tous dans le même bateau. Pacte de responsabilité, comme les accords de compétitivité qui sont signés dans les entreprises, sont, disent-ils, des accords gagnant-gagnant. Mais dans la société capitaliste, les accords gagnant-gagnant, cela n'existe pas. Les dirigeants et les défenseurs de ce système sont d'ailleurs les premiers à nous expliquer que le capitalisme, c'est la concurrence, la compétition, la guerre économique, et que ça l'est plus que jamais dans cette période de crise. Et ce sont les travailleurs qu'ils envoient en première ligne. Car à qui est-il demandé d'être toujours plus efficace, toujours plus compétitif? À qui est-il demandé de s'adapter, de vivre en fonction des commandes? À qui est-il demandé de sacrifier son salaire, son emploi, sa vie, en fonction des aléas de cette économie stupide? Les travailleurs servent de chair à canon dans cette guerre économique. Ce sont eux qui sont sacrifiés sur l'autel de la compétitivité. Les patrons, ils y gagnent à tous les coups, mais les travailleurs, eux, ils sont sûrs d'y perdre. Derrière la lutte contre la concurrence se cache la lutte de classe. Et les travailleurs n'ont aucun intérêt à se laisser enrôler par le patronat dans une guerre qui n'est pas la leur. La guerre que les travailleurs ont amenée, c'est la guerre de classe. Les travailleurs doivent se battre pour eux, pour leurs revendications, pour leur salaire, pour leur emploi, pour leur retraite, pour leurs droits. Et personne ne le fera à leur place. Et à partir du moment où les travailleurs engageront le bras de fer avec le patronat, eh bien il faut qu'ils soient prêts à aller jusqu'au bout. Si les travailleurs parviennent à arracher une partie du profit à la bourgeoisie, on l'entendra hurler, on l'entendra accuser les travailleurs de provoquer la faillite des entreprises, l'écroulement du système. Mais un système qui ne permet pas de vivre aux travailleurs, à ceux qui le font tourner, est un système indéfendable. Et une société qui prospère sur la faillite de la classe productive est une société qui doit disparaître. Une société qui doit donc disparaître au profit d'une nouvelle, dirigée cette fois par les travailleurs eux-mêmes, par les exploités, de telle façon qu'on ne laisse plus la concurrence et la loi du profit gâcher les possibilités immenses de la société. Oui, la lutte de classe existe, mais pour le moment, il n'y a que la bourgeoisie qui l'amène. Et si les travailleurs ne l'amènent pas, c'est à cause de leur direction. Les grands partis de gauche, le Parti socialiste et le Parti communiste, ont une responsabilité majeure et ancienne dans la démobilisation des travailleurs. Cela fait bien longtemps, je l'ai dit, que le Parti socialiste s'est transformé en gestionnaire loyal de la bourgeoisie. Mais la direction du Parti communiste a fini, elle aussi, à s'intégrer dans les institutions de la bourgeoisie et à tourner le dos aux perspectives révolutionnaires. Le Parti communiste est resté longtemps loin du pouvoir. Né en 1921, ce n'est qu'au lendemain de la guerre, en 1945, qu'il est entré au gouvernement. Il y est resté 2 ans et il n'y est revenu qu'en 1981 avec Mitterrand. Le Parti communiste a donc vécu le plus clair de son temps dans l'opposition. Mais même dans l'opposition, le Parti communiste a inculqué l'idée que la raison d'être de l'activité militante était de gagner des voix, de gagner des élections, de gagner des places dans les institutions bourgeoises. Oh, dans l'opposition, le Parti communiste a critiqué, dénoncé, il a même appelé à des manifestations et aux mouvements sociaux, mais ce n'était pas et ce n'était plus dans la perspective que ces luttes changent le cours des choses. C'était toujours pour renforcer la gauche gouvernementale ou pour accompagner son retour au pouvoir. Et on a vu de quoi était capable la gauche au pouvoir, même flanquée du Parti communiste. Avec Mitterrand d'abord, avec Jospin ensuite, et maintenant avec Hollande, on sait qu'elle est capable de justifier l'injustifiable pour faire la politique que le patronat lui demande. Et combien de fois les ministres communistes se sont-ils retrouvés à prêcher la patience aux travailleurs, à justifier la rigueur salariale, les reculs des services publics, les privatisations? Combien d'ouvriers, influencés par le Parti communiste, se sont alors sentis trahis? Combien de militants ont été démoralisés et ont fini par abandonner l'activité militante elle-même? Aujourd'hui encore, sans être au gouvernement, le Parti communiste refuse de se placer dans l'opposition et il continue de faire croire que le gouvernement peut encore redresser la barre. Et pour cause, pour sauver ses places dans les municipalités, le Parti communiste, la direction du Parti communiste, a décidé de faire liste commune avec le Parti socialiste dans de très nombreuses villes. Alors, ce ne sont pas les travailleurs qui se détournent du Parti communiste. C'est la direction du Parti communiste qui tourne aujourd'hui le dos aux travailleurs en se refusant de mener le combat contre ce gouvernement prétendument socialiste. À sa fondation, le Parti communiste n'avait pas seulement pour perspective de réformer la société d'exploitation et d'en limiter ses méfaits. Ses perspectives étaient de supprimer l'exploitation. C'était la perspective de renverser la société capitaliste et d'enlever à la bourgeoisie le pouvoir qu'elle a sur l'économie et son droit de mettre la société en coupe réglée. Eh bien, c'est avec toutes ces perspectives qu'il faut renouer aujourd'hui et avec tous les combats qui y mènent, qu'ils soient petits, qu'ils soient grands. Pour mener ces combats et aller jusqu'au bout, il ne faut pas compter non plus sur les grandes centrales syndicales. Sans parler de la CFDT qui se prépare à faire passer la pilule du pacte de responsabilité auprès des travailleurs, comme elle l'a fait avec l'accord national interprofessionnel. Que font la CGT et FO pour préparer les travailleurs aux luttes indispensables? Nous savons, parce que nous sommes militants, que les luttes ne se décrètent pas. Mais on peut et on doit dire aux travailleurs que la seule issue pour le monde du travail, c'est de lutter. Et c'est justement ce que ne font pas aujourd'hui les directions des centrales syndicales. Mais n'en doutons pas, quand les travailleurs décideront de se lancer dans le combat, ils feront comme les ouvriers de Peugeot-Aulnay l'ont fait, eh bien, ils se battront.
et ils sauront très bien mener leur lutte eux-mêmes, sur les mots d'ordre qu'ils auront eux-mêmes décidés et avec les méthodes qu'ils choisiront. Les directions syndicales, les partis qui visent l'électorat ouvrier, le Parti communiste ou le Front de gauche, les altermondialistes de diverses obédiences, présentent tous le protectionnisme comme un rempart contre la mondialisation, qu'ils présentent comme un ennemi. Ils se veulent les champions de l'industrie nationale. Ils s'arc-boutent derrière les frontières des États, alors même que ces frontières sont dépassées, y compris aujourd'hui dans le cadre du capitalisme. Et en quoi ces frontières peuvent-elles protéger les travailleurs de la domination du patronat et de l'exploitation? En quoi les frontières vont-elles empêcher les patrons d'écraser les salaires, d'imposer des horaires insupportables? Les capitalistes sont les maîtres de l'économie, frontières ouvertes ou frontières fermées. Et le problème, ce n'est donc pas de remettre en place de nouvelles frontières, c'est de se débarrasser de ces capitalistes. La classe ouvrière doit renouer avec les perspectives ouvertes par le manifeste communiste et avec l'internationalisme qui lui est indissociable. Cette semaine, le débat sur l'immigration a encore été relancé par le référendum suisse instaurant des quotas d'immigrés. C'est habituellement le fonds de commerce du Front National qui n'a d'ailleurs pas caché sa satisfaction, omettant de dire qu'en Suisse, les immigrés étaient pour beaucoup les Français. Mais on a aussi entendu Fillon trouver ce vote tout naturel. Côté socialiste, tous ont dit regretter la décision, mais cela ne les empêche pas de dire à leur façon que l'immigration est un problème. En réalité, dans la classe politique, il y a unanimité pour dire que l'immigration est un problème. Mais dans les années d'après-guerre, dans les années 1960 et 1970, l'immigration n'était pas un problème pour les dirigeants patronaux, pour les gouvernants. C'était au contraire la solution pour construire le pays, pour faire tourner les usines. Et c'est le cas encore aujourd'hui. Aujourd'hui encore, ce sont les travailleurs immigrés qui se chargent des tâches les plus ingrates et les plus mal payées. Alors, il y a de quoi être révolté quand on entend qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Parce que les immigrés qui viennent en France ne viennent pas pour être des assistés. Ils viennent pour travailler, pour gagner un peu d'argent, pour gagner de quoi envoyer à leur famille. Ils ne viennent pas pour prendre un logement HLM à un autre. Ils viennent pour les construire. Il ne s'agit pas d'accueillir toute la misère du monde, mais de la combattre. Et on ne la combat pas en chassant plus miséreux que soi, mais en combattant les véritables responsables de ce système capitaliste où l'enrichissement des uns est basé sur l'appauvrissement des autres. Et cela est vrai à l'échelle de la planète. Regardez ce qu'ils ont fait de l'Afrique. Le colonialisme est fini, mais l'Afrique continue à être vidée de son sang et de ses richesses, comme au temps des colonies. Pour prélever tout ce qu'ils peuvent prélever sans avoir à délier les cordons de la bourse, les groupes capitalistes surexploitent les travailleurs, polluent des régions entières et s'appuient sur les pires dictateurs qui soient. Ils condamnent ainsi l'Afrique au sous-développement. Et c'est cette réalité que défendent aujourd'hui les troupes françaises qui interviennent au Mali ou en Centrafrique. Et c'est pour le remercier de cela que Barack Obama a passé de la pommade à Hollande en visite aux États-Unis cette semaine. Mais l'intérêt des travailleurs de France est de dénoncer les basses œuvres de l'impérialisme français en Afrique et d'affirmer leur solidarité avec les peuples pillés, affamés et divisés. Au-delà de la solidarité élémentaire, les travailleurs doivent être conscients que leur force est dans l'union de tous les travailleurs. Les travailleurs ne doivent pas laisser pénétrer le poison raciste dans leur rang. Et le racisme anti-juif ne vaut pas mieux que le racisme anti-noir anti-arabes ou anti-musulmans. Quelle que soit leur origine, leur nationalité et leur religion, les travailleurs sont unis dans le sort d'exploiter et c'est ensemble, dans le combat contre l'exploitation, qu'ils s'en libéreront. La gravité de la crise actuelle et les menaces qu'elle fait peser sur la classe ouvrière et sur toute la société, la déconsidération du gouvernement de gauche aussi, feront mûrir les consciences. Personne ne peut deviner à quel rythme cette maturation se fera et à quel moment se produira ce basculement qui fera agir des millions et des millions de travailleurs refusant d'être lanternés quand leur situation se dégrade. Mais dans les mois à venir, les travailleurs auront à s'exprimer dans les élections municipales d'abord, puis pour les élections des députés au Parlement européen. Eh bien, il faut que les travailleurs se saisissent de ces occasions pour montrer qu'il existe dans le pays une opposition ouvrière au gouvernement, pour montrer qu'il y a des travailleurs conscients de leurs intérêts et des luttes à mener. C'est pourquoi Lutte ouvrière présentera des candidats aux municipales dans de nombreuses villes et bien sûr donc en Lorraine, à Metz, Nancy, Thionville, Vendeuvre-les-Nancy et Frouin. Nous présenterons aussi des candidats aux élections européennes et nous serons présents dans toutes les circonscriptions du pays. Ces élections, et en particulier donc les municipales, seront la première occasion qui sera donnée aux travailleurs de dire ce qu'ils pensent de la politique du gouvernement. Même si beaucoup tenteront de limiter la portée de ce vote aux enjeux locaux, il y aura une signification politique nationale à ces élections. Alors, ce sera l'occasion pour les travailleurs d'exprimer leur colère contre la politique anti-ouvrière du gouvernement et d'affirmer leur volonté de se défendre contre les licenciements, contre la démolition de leur pouvoir d'achat, contre l'aggravation de l'exploitation. Patientez, espérez une hypothétique reprise, voilà tout ce qu'offre le gouvernement aux travailleurs. Alors qu'il y a urgence, alors qu'à cause du chômage, des millions de travailleurs sont menacés dans leur existence même. Il faut des mesures radicales et contraignantes. Sauf à interdire aux grands groupes de licenciés, on n'arrêtera pas la montée du chômage. Sauf à se mettre en travers des intérêts du grand patronat, on ne stoppera pas l'hémorragie. Il n'y a pas de travail à donner à tous, répondront les patrons. Eh bien qu'on impose qu'il soit réparti entre tous sans diminution de salaire. Et pour résorber le chômage, il faut qu'il y ait des embauches partout où le personnel manque, partout où la cadence de travail et les horaires sont devenus insoutenables, partout où les salariés ne peuvent plus poser leur congé. Et il faut arrêter aussi avec ces contrats précaires scandaleux où tous les 6 mois, un travailleur en remplace un autre mis au chômage. Oui, cela coûtera de l'argent au patronat. Mais les grands groupes ont de quoi payer et à défaut qu'ils puisent dans les fortunes accumulées par les grands actionnaires. Quant aux difficultés des plus petites entreprises, c'est à celles plus riches d'y parer et aux banques aussi. Pendant la crise, au plus fort de la crise, l'État a aidé les banques à coups de dizaines, de centaines de milliards, en prétendant qu'elles étaient indispensables pour financer l'économie. Eh bien qu'elles le fassent donc aujourd'hui. Mais les travailleurs n'ont pas à être sacrifiés pour les entreprises qui sont éclopées du système capitaliste. Tout cela n'est irréaliste que si l'on considère que les fortunes de la bourgeoisie sont intouchables. Mais dans une société normalement constituée, l'évidence imposerait qu'en période de crise, l'argent serve d'abord à sauver les emplois, à sauver ce qu'il y a de plus essentiel et de plus vital à la population. Et pour que chacun vive dignement aujourd'hui, il faut relever le SMIC à 1700 euros net et il faut obtenir qu'il augmente au même rythme que les loyers, que le gaz, l'électricité, les mutuelles, les assurances, et ce pour tous les salaires, mais aussi pour les pensions de retraite et pour les minima sociaux. Ce sont des revendications élémentaires. Et à travers ces objectifs, les travailleurs ne font que revendiquer leur droit à la vie. Mais vous connaissez le discours du patronat et du gouvernement. Il n'y a plus d'argent, augmenter les salaires, embaucher est impossible, le pays a un problème de compétitivité. C'est pourquoi ces deux objectifs, l'interdiction des licenciements et l'échelle mobile des salaires, sont liés à un troisième, celui de contrôler les comptes et les décisions des entreprises. Parce qu'on ne peut pas et on ne doit pas croire sur parole les dirigeants de la bourgeoisie. Les mêmes qui expliquent qu'ils ne peuvent plus payer leurs cotisations pour la sécurité sociale versent 200 ou 300 fois le SMIC à leur PDG. Les mêmes qui refusent d'augmenter les salaires au rythme de l'inflation trouvent tout à fait normal de verser des dizaines de millions aux grands actionnaires. Millions qui seront ensuite dilapidés dans des caprices de riches, ou pire encore, dans la spéculation. Le grand patronat a érigé le mensonge en art de gouverner. Et pour savoir la vérité, les travailleurs n'ont pas d'autre solution que d'aller mettre leur nez eux-mêmes dans les comptes et d'éplucher toute la comptabilité. Ce serait aussi la seule façon de mettre en lumière les mille et un canaux de l'exploitation et cette immense pompe aspirante que constitue le capitalisme et qui fait qu'aujourd'hui, les 85 plus riches du monde possèdent l'équivalent de ce que détiennent les 3,5 milliards des plus pauvres. Le secret commercial, le secret bancaire et le secret des affaires font partie aujourd'hui des armes de la bourgeoisie et du patronat pour imposer sa domination. Eh bien, la levée de ce secret doit faire partie du programme des travailleurs. La mobilisation ne se décrète pas, et il ne dépend pas d'un petit groupe ni d'aucun parti de changer la société. Les changements sociaux ont toujours été provoqués par l'intervention des masses sur la scène politique et par l'évolution de l'état d'esprit de millions de travailleurs. Quel sera-t-il demain? Personne ne peut le prédire. La situation est mouvante, elle peut changer dans un sens comme dans un autre. Mais la première des choses, c'est de regarder la réalité en face. N'en déplaise à ceux qui pensaient que Hollande ce serait moins pire que Sarkozy, c'est pire. Non seulement parce que la situation matérielle du monde du travail a empiré, mais aussi parce que ces 20 derniers mois, ces 20 mois donc du gouvernement socialiste, ont aussi fait reculer les travailleurs politiquement et moralement. C'est un constat. Le Parti socialiste, au pouvoir, fait le lit du Front national. Et il suffit de discuter un peu autour de nous pour savoir que certains, des travailleurs, des chômeurs, sont tentés d'exprimer leur colère en votant pour le Front National. Ils pensent ainsi mettre un coup de pied dans la fourmilière. Ils se trompent lourdement. Depuis quelques années, le Front National a compris que son électorat réactionnaire, composé d'anciens de l'Algérie française, de racistes ou d'intégristes catholiques, ne lui permettrait pas d'accéder à la mangeoire du pouvoir. Alors, la dynastie Le Pen s'est diversifiée. La famille millionnaire fait désormais dans l'indignation sociale. Et elle dénonce maintenant le chômage, les bas salaires, les petites retraites, les petits commerçants écrasés. Toutes choses qui font croire à ceux qui ne savent plus à quel saint ou à quel diable se vouer que Marine Le Pen, au moins, défend les ouvriers. La réalité, c'est qu'elle fait comme tous les autres. Qui ne déplore pas aujourd'hui le chômage? Qui ne dénonce pas les impôts qui pèsent sur les plus modestes? Tout le monde sait le faire, même ceux qui sont responsables des augmentations d'impôts. Verser des larmes de crocodile est à la portée de tout le monde, de tous les démagogues. Mais encore une fois, dans cette société, et surtout dans cette période de crise, tous ceux qui ne sont pas déterminés à faire payer la bourgeoisie et à s'en prendre au profit des grands groupes capitalistes et aux exploiteurs se préparent à gouverner contre les travailleurs et Le Pen comme les autres. Marine Le Pen ne s'en cache pas d'ailleurs. Ceux qu'elle veut faire payer, ce sont les immigrés, c'est-à-dire un grand nombre d'entre nous, c'est-à-dire des travailleurs. Ceux parmi les exploités qui envisagent de voter pour le FN en se disant qu'il faut les essayer se tirent une balle dans le pied parce que leur vote se retournera contre eux. Leur vote se mélangera avec ceux des pires réactionnaires, avec les votes des petits patrons anti-ouvriers qui rêvent de faire disparaître le SMIC, le RSA, les syndicats. Il se mélangera avec celui des racistes. Et il sera interprété comme une critique du gouvernement sur sa droite. Il sera interprété comme l'exigence d'une politique plus dure contre les chômeurs, comme l'exigence d'une politique plus dure contre les syndicats et contre tous les travailleurs qui veulent s'organiser et se défendre. Bien sûr, il faut rejeter le gouvernement, mais il faut rejeter sa politique anti-ouvrière en mettant en avant les intérêts des travailleurs. Pour faire reculer le patronat et le gouvernement, il n'y aura pas de miracle. Il faudra des luttes massives de la classe ouvrière. Mais quand l'occasion nous est donnée de nous exprimer, et ce sera le cas dans les prochaines municipales, eh bien il faut que les travailleurs l'utilisent pour exprimer une colère consciente contre la bourgeoisie et contre ses serviteurs politiques, toutes obédiences confondues, du Parti Socialiste jusqu'au Front National, en passant bien sûr par la droite et par le centre. Dans les prochaines élections, la question qui se pose aux électeurs des classes populaires est de savoir s'ils sont prêts à participer, fût-ce modestement, fût-ce avec leur simple bulletin de vote, au réveil de la conscience ouvrière. Aux municipales, comme aux européennes, les votes en faveur des partis de la majorité présidentielle seront comptabilisés comme des votes favorables à la majorité de gauche. Les votes pour les partis de droite seront comptabilisés comme des votes favorables au retour au pouvoir des amis de Sarkozy et même peut-être de Sarkozy lui-même. Les votes en faveur du Front National seront comptabilisés, eux, je viens de le dire, comme des votes en faveur d'une politique plus répressive, une politique plus réactionnaire encore que celle de Sarkozy. Quant à s'abstenir, ce n'est pas seulement se détourner de tous ces partis qui représentent les intérêts de la grande bourgeoisie, c'est se détourner de toute politique, y compris d'une politique en faveur des travailleurs. Or, ces élections permettent de faire au moins un geste politique sans ambiguïté. Elles permettent d'affirmer la dignité ouvrière, la fierté d'appartenir à une classe sociale qui produit tout et fait vivre toute la société. Ce sera le sens des listes lutte ouvrière. Et il est important que les candidats représentant le camp des travailleurs soient présents dans ces prochaines échéances électorales. Parce qu'il ne suffit pas de dire que l'alternance des partis de la bourgeoisie est un leurre pour les travailleurs. Il faut surtout qu'émerge un parti qui représente les intérêts politiques et économiques de la classe ouvrière. Ce parti n'existe pas aujourd'hui. Les partis de gauche, qui d'ailleurs prétendent de moins en moins incarner les intérêts des exploités, sont devenus depuis longtemps des partis au service de la bourgeoisie. Ce parti ne pourra surgir que si des milliers, des dizaines de milliers de travailleurs reprennent confiance en eux et en leur classe et s'engagent sur le terrain de l'activité militante. Ces élections peuvent faire franchir un pas, un pas petit peut-être, mais un pas quand même dans cette direction. Et chacun peut y contribuer en participant donc à la campagne électorale. Chacun peut y contribuer en participant aux listes lutte ouvrière pour les élections municipales et en cherchant à convaincre autour de soi, sur son lieu de travail, dans son quartier, dans sa famille. Chacun peut y contribuer à sa façon, et ce qui est sûr, c'est que nous avons besoin de tous.